France Inter.
Qu'est-ce que vous allez me faire, Ferrand?
Vous questionnez, mon cher duc. Si tu ne veux pas souffrir mes morts, parle.
CO2, mon amour.
Écoute, j'ai connu un hérétique possédé du démon tel que toi. Il souriait, tandis qu'on lui écrasait les membres dans des étaux de fer. Et cet homme parla, lorsqu'on en vint au supplice de la chèvre.
La chèvre, pourquoi faire la chèvre?
Avec Denis Chessoux.
Une langue de chèvre sur la plante des pieds. C'est le supplice auquel l'homme le plus courageux ne peut pas résister plus de 5 minutes.
Ah oui?
Allez, vas-y, bourreau.
Sur France Inter.
Bon, bah écoutez, ce sera un petit peu plus calme et sans chèvre, j'imagine. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Ronan Mahé à la technique. Notre collaboratrice, c'est Camille Blanès. Thierry Dupin a choisi les disques et Xavier Pestugia réalise l'émission. Alors, qui a dit que nos dirigeants ne pratiquaient pas l'écologie? Un acte fort a été posé, le recyclage à haut niveau. Notre éphémère Premier ministre numéro 7 a tenté de recycler d'anciennes et d'anciens ministres. Bon, ça n'a pas marché. Même sous la 4e République, il n'avait pas pensé à s'autodissoudre aussi rapidement après le dit recyclage. Un miracle de la chimie. Faut dire que ce gouvernement donc aurait ignoré aussi fortement que le précédent les règles essentielles de l'écologie. La preuve, l'énergie, le logement, la mobilité, trois secteurs clés de la décarbonation parmi les plus émetteurs de gaz à effet de serre n'étaient pas dans le giron du ministère de l'Environnement. Quant à la nature, rebaptisée biodiversité, il ferait beau voir qu'elle entrave la marche du progrès ou d'une autoroute. Alors écoutez, on va lever les yeux et voici une petite victoire qui fait du bien. Madame Lalouette et votre champ de plein ciel, vous dont les effectifs baissent lentement mais sûrement, eh bien le Conseil d'État suspend la chasse aux pantes dans le Sud-Ouest. C'est un désaveu net pour la ministre de l'Écologie en charge de la chasse qui s'obstine à satisfaire les lobbies cynégétiques en tentant de pérenniser le piégeage et la mort car c'est une tradition. Et comment un gouvernement peut-il tenir courageusement ses promesses de protection des espèces en danger quand il suffit que quelques gros bras armés et forts en gueule pour le faire rentrer à la niche, le règlement entre les jambes? Alors ces confrontations justifiées entre associations, LPO, One Voice, gouvernement et Conseil d'État sur la Louette et autres piaf existent depuis la directive Oiseau de 1979. Il y a 65 espèces d'oiseaux chassables en France métropolitaine, ce qui en fait la liste la plus importante de l'Union européenne. Eh bien oui, il faut le saluer. Il faut quand même qu'on soit les meilleurs quelque part. Ça a failli repartir donc pour quelques chasseurs privilégiés du Sud-Ouest afin d'avoir leur quota de chair fraîche. La Louette des Champs a un gros défaut. Elle est chauvine, casanière et ne picore que dans le Sud-Ouest où les grains sont gros et gras. Alors que sont les fameuses pantes avec un A? Eh bien c'est un système primitif et sournois de filets rabattus sur des oiseaux migrateurs attirés par des collègues captifs. Qui sont attendus tout l'été, donc ils attendent tout l'été dans des volières d'amis de la nature, avant d'être envoyés trahir leurs semblables. Bon, remarquez bien, chez les Médicis c'était à peu près pareil. Que de noblesse, de grandeur d'âme digne des temps médiévaux où le peuple des campagnes crevait de faim, tant qu'il semble revenir furieusement à la mode depuis ces dernières années où le dit peuple crève surtout d'artériosclérose, de cholestérol, de sucre, de pesticides et de trop d'écran. Notre alouette possède une des gammes les plus riches parmi les piafs, 600 notes et articulations de phrases. Et François Grandbert nous raconte joliment cet animal dans Éloge de l'alouette aux éditions Arléa. La nature nous donne des sons qui sont capables d'agrandir nos vies. Comme plein d'autres animaux, chère alouette, tu es garante de notre humanité. Sans toi, il manquera un bout de beauté. Donc, je ne te plumerai pas le bec, mais je clouerai le bec à ceux qui veulent ta mort, car ici, on prend le parti du vivant. Vous avez Paul Fort qui avait une jolie phrase, il disait « Tout le ciel rit, l'alouette a chanté ». Bon, alors le beau, il va en être question, ce sera même central dans les propos de Jean-Michel Beignet sur sa réserve naturelle volontaire, on y reviendra, de la Maçonne en Charente-Maritime.
Something you said the other night made me believe that I am falling into
Agréable playlist. Hein. Merci Thierry Dupin et surtout donc merci à Lani. L'histoire d'un rêve, la maçonne, l'histoire d'un homme qui donne.
Nous sommes dans la réserve naturelle régionale de la Maçonne, en Charente-Maritime, dans le village de la Gripperie-Saint-Symphorien. Un terrain assez vierge, très mêlé entre le marais, les landes acides, les bois calcaires. C'est vrai qu'il y a une diversité de biotopes qui est complètement extraordinaire. C'est un lieu de calme et de paix. C'est l'état libre de la maçonne, finalement. L'espèce d'état dans l'état. Non, mais je plaisante, mais c'est une structure complètement indépendante, finalement, et qui est quasiment encerclée par l'agriculture productiviste. L'émerveillement et le beau, c'est quelque chose qu'on peut éprouver personnellement face à la nature. On peut s'extasier tout seul. Regardez ça comme c'est beau. Arrêtez-vous, respirez et regardez la beauté du monde. Ne l'oubliez jamais, ça.
C'est l'histoire d'une réserve qui mousse de rayons. Donc nous sommes surplombant le marais de Brouage. Jean-Michel Beignet est un homme qui est peintre, écrivain. La nature est son chevalet, sa toile, son pinceau, son modèle, sa respiration. Nous sommes donc à la Gripperie Saint-Symphorien, ça c'est pour la commune. Et je rends un petit hommage d'ailleurs à Denis Rouillet qui est son maire et qui fait des tas de choses en faveur de l'environnement. Alors les bêtes et les paysages du Jura, de la mer ou bien du marais de Brouage de Jean-Michel Beignet habiteront toujours cet homme et ses tableaux. L'originalité de cette centaine d'hectares, oh ben c'est simple, il en a fait don pour qu'il soit protégé, donc avec son épouse. Ils sont donc devenus réserve naturelle volontaire sous l'égide du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui assure financièrement et la gestion est assurée par Nature Environnement 17. Alors vous allez me dire, c'est une goutte de bien-être, de beauté, environnée de champs industriels, il nous l'a dit. À la Maçonne, Jean-Michel Beignet donc a créé aussi un joli festival écologico-culturel qui mêle les arts, la nature, nature, culture, patrimoine bâti, végétal, unifié main dans la branche. Ça s'appelle les Veilleurs de Vent. Très joli nom, les Veilleurs de Vent. Donc il accueille aussi des artistes en résidence qui vont traduire le paysage. Et cet homme qui a écrit « Qui se souvient encore de la beauté du monde ?» eh ben, a eu la mauvaise idée, un matin de juillet 2025, de ne pas se laisser réveiller par le soleil. Alors avec le vent, avec les marées, et non contre eux, il disait la beauté du monde avec son souffle de petit jurassien des plateaux. Il sait la nature plus forte que la folie des hommes, convaincu que le beau, si on y a accès, atténuerait les violences. Jean-Michel était un homme de bien, un homme de don, un veilleur de vent. Il soulevait des poèmes comme on retourne les pierres. Et donc la Massonne est sa terre, ses mots, ses rêves. Et aujourd'hui, donc, cette réserve est passée à 200 hectares récemment. On va se promener avec lui dans ce lieu qui fredonne, l'histoire d'un bel homme qui donne, avec son épouse Roselyne, ils ont fabriqué cette Massonne.
Réserve naturelle volontaire, ça veut dire tout simplement que ce sont des propriétaires qui ont une certaine surface de terre, en l'occurrence c'était 100 hectares, qui décident de mettre leur terre en réserve. En réserve naturelle, c'est-à-dire de protéger complètement ces terres. À la suite de ça, il y a un inventaire qui est fait par des biologistes, la faune, la flore, et après, il y a un arrêté préfectoral qui met ces terres, en, ou pas d'ailleurs, en réserve naturelle.
L'homme du Jura que vous êtes au départ, donc un homme du Grand Vaud, très cher à Bernard Clavel, a toujours été imprégné par la nature. Mais pourquoi vous avez fait ça, vous ?
Ben justement, c'est parce que je suis, et nous étions, mon épouse et moi, très imprégnés par la nature, et surtout par la notion de protection de la nature. La conscience qu'il fallait absolument protéger certaines terres. On en avait la possibilité, donc on l'a fait. En fait, c'était ça la question. On avait le bonheur de posséder ces terres. Donc ce que nous avons fait, c'est les mettre en réserve naturelle pour les protéger. C'est tout simple. C'est une vocation, c'est un sentiment de faire quelque chose, enfin, pour la planète.
Et aussi avoir un regard différent, on va dire, sur cette nature et sur le beau. Là, je m'adresse au peintre que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes dit, ah bah oui, mais c'est aussi un tel réservoir d'émotions qu'on va en faire profiter un peu tout le monde.
Je suis un peintre de la nature. Je me sens concerné directement par le paysage. Je fais mon ressenti par rapport à la nature. C'est-à-dire que c'est mes émotions, elles sont tout simplement faites par la beauté du lieu. C'est ce sentiment d'appartenir à ce monde et de pouvoir découvrir toute la beauté qu'il renferme. Quand on a acheté cette propriété avec mon épouse, on avait une chance énorme, c'est que le propriétaire précédent n'avait aimé les arbres. Il ne les a jamais abattus, donc il y a des arbres magnifiques. Et en plus, il n'y avait pas ni métayer, ni fermier, donc pas de champ de maïs.
Ouais, donc terrain assez vierge quand même.
Donc voilà, un terrain assez vierge, très mêlé entre le marais, les landes acides, les bois calcaires. Parce qu'il y avait une diversité étonnante. Et en fait, c'est un lieu de calme et de paix.
100 hectares, tout à fait à l'écart du monde de ses pollutions. La réserve naturelle régionale de la Massonne existe maintenant depuis un quart de siècle. Ici, l'homme n'est toléré que sur invitation. Ça tombe bien, aujourd'hui, une visite est organisée par Nature Environnement 17, gestionnaire du site. La petite troupe s'élance derrière Thomas Duperron, l'animateur. Flore et arbres rares, faune autochtone, il explique tout. Le public apprécie, la plupart des visiteurs sont des locaux qui n'étaient jamais venus ici.
Découvre, tout à fait, dans un biotope naturel comme ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est d'avoir cette biodiversité encore là près de chez nous.
Alors là, je vais me tourner vers Sandra Laborde et puis Thomas Duperron, parce que vous êtes quand même des, qu'est-ce qu'on dit, les gardes de cette réserve.
Les agents,
voilà.
De réserve naturelle. En fait, il y a une mosaïque d'habitat naturel qui est assez incroyable, d'autant plus incroyable qu'on est sur un site qui fait 100 hectares. C'est pas énorme. Mmh. Mais par contre, on est à l'interface de facettes extrêmement différentes et c'est ce qui en fait sa richesse naturelle.
Alors, diversité, évidemment, c'est le mot majeur en matière d'écologie. Donc, Thomas Duperron, vous êtes le conservateur, vous, ici, de cette réserve.
C'est vrai que la particularité au niveau de la réserve de la Massonne, c'est qu'on est situé à l'interface entre le marais de Brouage et des plateaux sablonneaux calcaires, qui sont donc les fameuses landes de Cadeuil. Et cette zone-là, en plus, on a la chance d'avoir des veines d'eau qui alimentent le secteur. Donc tout de suite, on a cette diversité de milieux. Et dès qu'on fait des inventaires au niveau faune et flore, on a des listes qui sont très conséquentes. C'est pour ça que là, on a réactualisé l'inventaire au niveau de la flore. On est à un peu plus de 800 taxons. Donc plus de 800 espèces sur un site qui de plus d'une centaine d'hectares. Ouais. C'est énorme. Il y a de l'eau, donc tout de suite il y a de la vie et une richesse au niveau de la faune.
Et donc ça se traduit avec des espèces qui vont venir ici, qui sont des réfugiés chimiques dans le coin par exemple, qui se disent c'est bon. Mais là, on peut se poser.
Longtemps, ce sont des sols qui n'ont pas été dégradés, travaillés ou défoncés par des outils agricoles. Donc effectivement, on retrouve certaines espèces qu'on a pu ailleurs et qui sont là, elles ne sont pas forcément déplacées, c'est qu'elles n'ont pas été détruites aussi à côté. Après, il y a l'effet réserve qui fait que la faune sauvage recherche des zones de quiétude, des sols aussi avec une certaine une richesse. Et donc tout de suite, ça vient aussi se réfugier sur ces petites zones. À savoir qu'en France, les réserves naturelles, c'est à peu près 0,9% du territoire. Et dans 0,9% du territoire, on a un peu plus de 70% de la biodiversité de la France métropolitaine. Quand on fait ce petit ratio, ça explique aussi pourquoi sur 0,9% du territoire, on met en place une réglementation. L'outil réserve naturelle, ça permet de cadrer de gérer toutes les activités. Et là, sur cette propriété privée qui est mise en réserve naturelle, donc à l'initiative des propriétaires, il y a donc un travail de concertation pour justement comment tout concilier pour la biodiversité. Et donc on fait des choix aussi d'ouverture du site, on fait des choix d'interdire certaines activités. L'objectif, le curseur, là, hein, c'est vraiment conserver cette biodiversité.
Vous tirez dans cette direction ?
Mais non, on ne va pas tirer dans le bois. Mais non, il y a nos rabatteurs et nos chiens dans le bois. Non, non, on tire toujours par là. Quand l'animal il sort, là, il fout le camp, là. On est toujours dos au bois.
Vous n'allez pas tirer dans notre jardin, il y a nos enfants ?
Et ma chatte ?
Il n'y a pas de danger. On tire toujours petite chance, vers le bas.
Bon, on s'entend plutôt pas trop mal avec les chasseurs locaux, non ? Ça se passe bien ? Moyen, c'est...
Ça se passe bien, je veux dire, en bonne harmonie. Mais c'est-à-dire, on comprend, moi je ne suis pas un pro-chasse du tout, mais je comprends qu'ils soient inévitables dans ce domaine-là. Parce que, tout simplement, c'est vrai que c'est un lieu de calme, donc forcément ça attire les sangliers, et forcément ils se multiplient, et on peut être accusé, comme on l'a été, d'être une nurserie à sangliers, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Les chasseurs nous aident à gérer un peu ça, c'est-à-dire à les faire fuir ailleurs. Après, ce qu'ils en font, c'est autre chose.
Attendez, excusez-moi, vos balles, elles vont loin ?
Honnêtement, max 2 km.
2 km,
oui, mais
c'est énorme 2 km, c'est un marathon presque.
Non, de toute façon, peu importe, puisque nous, on tire fichant vers le sol.
Ah, je vais me tourner vers à la fois un forestier et un biologiste, avec un aperçu qui est aussi dans cette réserve de l'Amazone. Qu'est-ce qui vous épate, vous, avec votre œil, on va dire, arboricole ?
Ce qui me fait le plus grand bien, c'est de voir une forêt en libre évolution, respirer d'elle-même, vivre d'elle-même, en harmonie avec la lumière, en harmonie avec les saisons, en harmonie avec la faune et la flore, sans lesquelles une forêt ne serait pas une vraie forêt. Et c'est le sentiment d'apaisement absolu, de quiétude et de sérénité que ces milieux-là inspirent.
Oui, mais parce qu'on sait très bien les uns les autres que quand les choses peut-être vont pas, on va aller se baigner, j'allais dire, dans une forêt pendant une demi-heure ou une heure, et naturellement ça va mieux. Pourquoi ça va mieux quand on est dans une forêt ?
En fait, la forêt déstresse. Le silence, ça fait du bien. On sait que quand on est dans un environnement extrêmement bruyant, ça finit par peser sur à la fois le moral, la respiration et tout un tas de choses. La forêt, c'est un espace où on peut écouter le silence. C'est un espace où on est apaisé, je crois, et délivré d'un certain nombre des contraintes et des méfaits du monde industriel dans lequel on vit.
Alors Alain Persuit, c'est peut-être le moment quand même de dire un petit mot sur une gestion qui n'a rien à voir avec celle-ci. Alors vous avez donc des gens qui font quand même extrêmement attention et qui sont des forestiers pour qui la biodiversité n'est pas un gros mot. Et puis on a eu ce plan de 1 milliard d'arbres à planter.
Parmi les annonces du jour, il y a aussi la plantation d'un milliard d'arbres dans les 10 ans qui viennent. 1 milliard, c'est un chiffre impressionnant. Et instinctivement, on se dit que c'est une très bonne nouvelle. Reste à savoir si c'est vraiment là le meilleur traitement pour soigner nos forêts.
Comment redonner vie aux forêts ? À ces massifs éventrés, noircis par les cendres, des incendies de l'été. La solution du gouvernement, replanter en masse, avec un objectif vertigineux. 1 milliard d'arbres en 10 ans. Pour y arriver, il faudrait planter 275 000 arbres quotidiennement, une cadence plus élevée que le rythme actuel, 205 000 arbres par jour.
Bon, on se dit, en absolu, c'est pas mal, quoi. On se dit, on va planter 1 milliard d'arbres, c'est très bien, ça va être des usines à CO2, à oxygène, ok. C'est un peu plus subtil que ça.
Parce que, d'une part, la noblesse du métier de forestier, c'est d'assurer et d'accompagner la régénération naturelle. La plantation en foresterie, ça doit être une mesure d'exception quand on ne peut absolument pas faire autrement.
Ah.
Suite à un accident biologique, climatique, etc. Normalement, nous n'avons pas à planter. On accompagne encore une fois ce que fait la nature d'elle-même via les semences, les glands, les faines, etc. Via aussi ce que les animaux sauvages diffusent en forêt, puisque dans le pelage d'un chevreuil ou d'un sanglier, il y a des dizaines d'espèces forestières qui s'accrochent et qui sont ainsi disséminées par les animaux. Alors, planter des arbres où ? Dans des endroits où on a fait des coupes rases, c'est-à-dire on va installer des jeunes plants dans des sols qui ont été compactés par les abatteuses la plupart du temps, puisque c'est fait pour théoriquement répondre au dépérissement forestier. Donc les plants vont avoir beaucoup de mal à s'installer, ils vont être soumis aux sécheresses et aux canicules à venir. Les champignons mycorhiziens n'aiment pas du tout d'être exposés en plein soleil, donc vont régresser beaucoup dans le sol, et les arbres ne peuvent pas pousser correctement, s'alimenter correctement en eau si les champignons mycorhiziens disparaissent. Donc on va planter des arbres dans des conditions épouvantables, et je pense que si l'on repassera dans 3 ou 4 ans, on verra qu'il y a 30 ou 40% de mortalité. Donc c'est une opération qui est tout sauf précautionneuse et recommandable.
Oui, et qui intéresse qui quand même, parce qu'il y a quand même à qui profite le crime.
Ça correspond bien aux intérêts purement financiers, économiques, de grandes structures économiques, de grandes coopératives qui font de la monoculture, parce que c'est très souvent lié à des problèmes de monoculture. La meilleure des réponses, c'est de se hâter d'aller lentement, de voir comment la nature elle-même va pouvoir réagir, d'accompagner cette réaction de la nature, et surtout pas de se précipiter pour tout couper à ras et replanter. Encore une fois, c'est une fausse bonne solution.
Et oui, toujours le temps long de la nature face donc à notre immédiateté, notre court-termisme. Restez avec nous parce qu'on n'a pas fini de prendre l'air dans cette réserve volontaire, naturelle et régionale de la Massonne.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Dans nos attelages, des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi. J'entendais quelques arpèges par un après-midi pluvieux.
Celle-là, moi, je m'étais promis de vous la rediffuser avant de quitter ces ondes que j'aime. On va se retrouver donc dans cette réserve naturelle régionale Nouvelle-Aquitaine de la Massonne, Nous avons pas loin le golfe de Saint-Onge, la tour de Brou, là, c'est là. Et on va retrouver grand plaisir, donc Jean-Michel Beignet.
Le champ de l'eau, en fait, c'est devenu assez rare. Quand on se promène en Aunis, par exemple, essayez d'aller chercher un ruisseau qui coule. Le bruit de l'eau qui coule dans un ruisseau, c'est très difficile. En Charente-Maritime, il en reste un petit peu. C'est une pure merveille. Et s'asseoir là, à côté, sur un tronc, et écouter le chant de l'eau, c'est absolument apaisant. Cette espèce de fluidité de l'eau qui coule librement, ça agrandit la respiration.
Thomas Duperron, d'où elle vient cette eau ?
Là, on est sur un petit cours d'eau qui arrive, qui prend sa source du côté de Gémozac. Donc on est quasiment sur de l'eau thermale qui ressort ici, qui alimente toute cette zone boisée. Là, donc, c'est une aulnée freinée, hein, présence d'aulnes et de frênes. C'est pas banal. C'était autrefois, il y a quelques années, un paysage commun. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'assèchement des zones humides, les plantations de peupliers, donc la sylviculture, les cultures de maïs font que ces milieux-là ont disparu en grande partie. Donc là, voilà, on sait qu'on a de l'eau qui vient de plusieurs centaines de kilomètres, qui ressort au niveau d'une petite résurgence peu plus loin dans la réserve. On sait qu'on est sur une eau oligotrophe, pure, peut-être vierge de toute pollution chimique, oui, qui alimente toute cette zone. Et après, ça va où ? Dans le marais de Brouage. Et c'est important parce que c'est les petites veines d'eau qui vont dans le marais de Brouage, 10 000 hectares de marais d'un seul tenant.
Voué au pastoralisme, c'est ça.
Et voilà, et on a tous besoin d'eau de qualité. Ces petites sources comme ça, c'est un gros travail à faire pour préserver l'alimentation, l'eau, l'enjeu de l'eau, la qualité de l'eau, la quantité de l'eau. Le challenge, il est aussi là pour nous, acteurs de la biodiversité.
François Persuit, moi je suis un arbre. Alors évidemment mon boulot c'est d'aller chercher de la lumière. J'ai inventé des panneaux solaires qui s'appellent des feuilles quand même. J'ai besoin évidemment de coopération par les racines, avec les champignons, pour aller chercher aussi de la matière organique et des sucres, d'échanger tout ça. Et puis j'ai besoin d'eau.
Autrefois, une certaine administration qui s'occupe de forêts s'appelait les forêts. Eaux et forêts.
Ouais, exact.
Et c'était extraordinaire parce qu'on reliait deux éléments qui sont strictement imbriqués l'un avec l'autre. L'eau a besoin de la forêt a besoin de l'eau. Bon, ça ne s'appelle plus comme ça, c'est bien dommage parce que ça reflétait une réalité. Chaque fois que l'on mesure par exemple l'hygrométrie, on s'aperçoit que là où il y a la forêt, il pleut beaucoup plus. Bien évidemment, les arbres sont des êtres vivants qui transpirent, comme vous et moi, qui dégagent donc de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau forme des nuages, les nuages donnent de la pluie, la pluie tombe par terre et permet aux arbres de pousser. Donc tout ça, c'est absolument relié. Et en plus, l'arbre a une qualité formidable par rapport à l'eau, notamment pour répondre aux problèmes de pollution agricole. C'est ce qu'on appelle la phytoremédiation, c'est-à-dire la capacité qu'ont les arbres de casser les molécules chimiques, y compris de produits extrêmement toxiques. Donc l'arbre stocke, casse les molécules chimiques, garde les molécules chimiques en lui pendant toute sa durée de vie, donc c'est retiré de l'environnement. Soit il relâche une partie de ces éléments-là, mais une fois les chaînes cassées, donc c'est pratiquement inoffensif, ça n'a plus les capacités de nuisance qu'avaient les produits au départ. Donc une des meilleures réponses qu'apportent les arbres pour lutter contre les pollutions d'origine agricole et la fermeture de milliers de lieux de production d'eau potable en France, oui, une des meilleures solutions, c'est de replanter une partie des périmètres de protection des captages d'eau potable. Et on s'aperçoit que, d'une manière spontanée, la forêt joue un rôle gratuit. Ça ne coûte pas grand-chose à planter. Quand on replante, ce n'est pas un coût considérable. Et que cette usine-là, elle va fonctionner gratuitement pendant des centaines d'années. En même temps, elle va accueillir de la biodiversité, elle va restocker du carbone, elle va permettre des aménités humaines, il va y avoir des champignons, il va y avoir des choses, oui, comme ça qui vont les pousser. Même des grandes villes industrielles comme extrêmement peuplées comme New York aux États-Unis, une bonne partie de l'eau potable de New York vient de la forêt.
Tout à fait.
Donc ils ont économisé, et ça c'était un argument excellent pour les Américains, ils ont économisé la construction de 4 stations de traitement d'eau potable à cause de la présence de la forêt.
Installez-vous. Voilà. C'est une vieille histoire de famille. Chaque fois qu'on a fait un vœu sous cet arbre, il s'est réalisé.
Ah bon ? Bah tiens, c'est ça, moi aussi je vais faire un vœu.
Moi aussi.
Le mien est fait.
Le mien aussi. Ça serait curieux qu'on ait fait le même.
Jean-Michel, vers où se dirige-t-on ? Qu'est-ce que vous montrez là ?
Je voudrais te montrer une œuvre de Sylvie Forcioli, un peintre, qui a fait une œuvre qui nous montre symboliquement l'enracinement des arbres. On va approcher.
Allez.
Avec discrétion, parce qu'il faut, quand même, malgré tout, qu'on le veuille ou non, quand on se promène dans une forêt, avoir un peu de discrétion et préserver le silence, même dans ses déplacements. Ça paraît pas, mais regarde ce qu'elle a fait.
Ah oui.
Ça, c'est quand même très beau, parce qu'elle a reconstitué le système racinaire de l'arbre. qu'il l'a mis apparent pour qu'on voit un peu comment ça fonctionne.
Elle a repris donc des branchages ou bien elle les a mis plus à nu, c'est ça?
Elle s'est tirée pendant la semaine des branchages qu'elle a ramenés,
voilà.
Qu'elle a
elle
appliqués
a posé.
Sur ouais. le tronc, tout en faisant attention à ce qu'ils aient l'air de racines, hein, ouais, c'est-à-dire ouais. avec les racines terminales, etc., etc.
Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que nous-mêmes dans notre vocabulaire, on emprunte énormément à l'arbre. D'abord, on a des racines quoi, aussi, donc
bien sûr.
Les uns les
oui,
autres.
Oui.
Ça commence par ça, déjà.
Oui, oui.
Et puis on se dit, bah, tiens, il est solide comme un chêne. Le vocabulaire, enfin, il est là. Enfin,
bien
il
sûr.
Est,
bien sûr.
Pour votre quotidien.
L'arbre fait partie de nos vies.
Bon, alors là, c'est formidable, parce que moi, j'ai l'artiste. J'ai Sylvie Forcioli. Ce que vous avez voulu faire, c'est une merveille. C'était, en fait, ça nous renvoie presque à nos propres racines.
C'est un petit peu ça l'idée, oui, effectivement, c'est de faire apparaître les racines, donc tout ce réseau en fait qu'on ne voit pas, sur lequel on marche, et de le rendre visible et à une échelle où d'un seul coup, nous, on se sent participer à. Donc voilà, donc c'est un petit peu, oui, aller chercher nos racines et surtout notre connexion au vivant, en fait, qui n'est pas forcément apparent. Et donc là, voilà, j'avais envie de leur donner une autre échelle, le rendre visible et nous inclure dedans, quoi. Voilà.
Alors Alain Persuit, justement, quand on parle des racines, enfin, tout le système racinaire, mais il est dingue. Il ne fait peut-être pas autant la hauteur de l'arbre, mais soit c'est des racines horizontales, soit c'est des racines qui vont aller chercher de l'eau très profondément. Mais c'est la base de l'affaire, quoi.
Oui. En général, on estime que les racines d'un arbre, ça représente plusieurs fois le volume du houppier, c'est-à-dire de l'ensemble des branches et des feuilles. Tout dépend des sols aussi. Évidemment, dans des sols rocheux, c'est beaucoup plus difficile pour l'arbre d'avoir un système racinaire important. Mais d'une manière globale, les racines, c'est ses poumons. Ce qui permet de s'alimenter, ça fait partie des choses extrêmement importantes. Et ça forme un milieu qu'on appelle la rhizosphère, qui est encore inconnu et qui nous livre encore des secrets régulièrement. On apprend des choses sur le système des racines, et notamment sur les symbioses entre les champignons mycorhiziens et les racines de l'arbre.
Les oiseaux sont les gardiens du temple, tu comprends ?
Non.
Tu vois, si je pose ma main sur la branche, d'où vient de s'envoler cet oiseau ? Eh bien, je me sens relié à lui. On traversait la forêt comme si c'était un parking. En réalité, le pied de l'arbre, c'est sa tête. C'est un être inversé. Les branches sont ses racines. Elles plongent dans le ciel. Elles attendent le vent et le soleil. Dans le végétal, il y a toute la mémoire de l'univers. Vous êtes une partie de cet univers.
Il y a quelque chose que vous aimez beaucoup, Jean-Michel, c'est le désir de se perdre. Racontez-nous, vous avez toujours aimé ça.
Oui, le désir de se perdre vient de ma naissance dans le Haut-Jura. C'est-à-dire, dans mon enfance, j'entendais parfois qu'un homme n'était pas rentré. Ils étaient partis chasser, le chevreuil, je ne sais pas quoi, dans les immenses forêts du Haut-Jura, la forêt du Rizou ou d'autres, et qu'un homme, le soir, n'était pas rentré. Donc il s'était perdu. C'était un perdu. Et moi, ça m'a toujours fasciné, comment on peut se perdre. Et c'est extraordinaire d'avoir cette notion-là, de se perdre quelque part. Et plus tard, je me suis moi-même perdu dans ces forêts-là, complètement involontairement, et à ne pas me retrouver. C'est-à-dire, comme le Haut-Jura se prête très bien à une sorte de perdition, puisque ce n'est pas un côté où il y a un aval et un amont, un flanc ou un autre, c'est un enchaînement de combes, donc on peut se perdre complètement. Voilà, c'est pour ça que j'aime me perdre. J'aime me perdre, j'aime ne pas savoir où j'en suis.
Et c'est donc faire attention au monde et au vivant, et même plus loin encore.
Bien sûr, parce que quand on se perd, on est obligé de se repérer. Donc on porte une attention encore plus forte à ce qui nous entoure. On essaie de trouver des traces, on essaie de comprendre pourquoi on ne retrouve pas le chemin qu'on a pris. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on passe dans un endroit où on est déjà passé. Donc là, on est réellement perdu.
Et donc ça réenchante quoi en nous? Ça réactive quoi?
Ben, ça enchante un imaginaire incroyable, ça agrandit le monde. C'est-à-dire c'est un monde où on peut encore se perdre, c'est un monde qui n'est pas canalisé, qui n'est pas ligné, où il y a encore des marges où on peut se perdre.
Puisque ce seront les images qui nous diront la vérité, qui feront parler les sondages, qui dicteront le quoi penser, puisque l'on manque de grands sages, puisqu'il n'y a plus de veillée, puisque plus vite, plus fort dégage, tourbillon jusqu'à la nausée, moi je voudrais, oh, je voudrais marcher dans une forêt.
Cette forêt, maintenant, elle fait partie de vous-même, de même que vous avez emporté dans votre cœur des forêts du Jura.
Oui, c'est exactement ça. Souvent, je me pose la question. Je me dis, est-ce qu'il y a un autre endroit sur cette planète où tu aimerais être. Et en fait, je m'aperçois que... Enfin, je parle, j'emploie du mot être exprès.
Ouais, ouais, avec un H.
Avec un H, et ben, je me dis non. Il faut dire que j'ai un certain âge et que j'ai fait pas mal de choses, mais en fait, je trouve que c'est un lieu miraculeux. Et c'est surtout miraculeux d'avoir pu laisser ça en l'état où c'était, et puis de savoir que ça va rester comme ça, et que jamais personne ne pourra y toucher et détruire quoi que ce soit, et qu'on ne sera pas menacé par toute forme d'agriculture destructrice. Quoi.
Moi, je voudrais... Oh, je voudrais marcher dans une forêt.
Merci Jean-Michel Beignet, formidable veilleur de vent, et cette réserve de la Maçonne donc, qui s'agrandit avec le soutien donc, de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci à Tilaï Ravu qui a mixé ce reportage, à Camille Blanès et Xavier Pessugia qui a réalisé, colorisé cette émission. La semaine prochaine, je vous emmènerai sur le glacier des Bossons, ouais, avec Ludovic Ravanel. On sera dans ce très beau lieu donc, de Chamonix. Je vous retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky et les éditos. Bah tenez, les éditos de début, bah maintenant ils sont évidemment aussi en podcast, donc vous pouvez les récupérer sur l'application aussi Radio France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de dimanche.